I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Depuis le temps qu'on vous raconte des histoires, vous devriez le savoir. En amour, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si un jour on vous dit « ne te précipite pas, tu es sûr que tu ne vas pas trop vite », rappelez-vous de l'histoire de Caroline.
J'ai 22 ans, j'habite à Saint-Mandé exactement, et 2 ans avant, je décide d'arrêter la fac, donc à 20 ans, parce que je suis en fac et ça me plaît pas tellement. Et je me dis, j'ai toujours rêvé d'être danseuse, et je m'en suis jamais donné les moyens. Donc à 20 ans, j'arrête la fac, je commence à prendre des cours tous les jours au centre de danse du Marais. Et là, j'ai 22 ans, et je m'étais donné cette deadline en me disant, si j'ai pas un premier contrat, je reprendrai mes études. Et il se trouve que à 22 ans, je suis engagée pour faire l'ouverture et la clôture des JO d'Albertville avec Philippe Découfflé. Donc c'était assez énorme. Et en même temps, je me pose un peu des questions sur ce parcours un petit peu chaotique depuis 2 ans. Sentimentalement, je suis avec mon prof de danse qu'à l'âge de mon père. Donc j'ai fait un bel Oedipe. Voilà, je crois plus en grand chose. Et il se trouve que quelqu'un que je connais vaguement, parce qu'il traînait au centre du Marais aussi, me dit « je pars avec des amis en Guadeloupe, est-ce que ça te dit de partir ?» Comme je n'étais pas dans une phase très joviale, je dis « écoute, non, je ne pense pas que je serai d'une compagnie très agréable. » Donc, je rejette dans un premier temps cette proposition. Et puis, en fait, je rentre chez moi et je me dis « mais finalement, ça me ferait sûrement du bien. » Et le hasard des plannings de vol fait que qu'il n'y avait pas de place le jour de leur départ, ni le lendemain. Et donc, je le rappelle en disant « écoute, il n'y a pas de place, sauf demain, c'est-à-dire la veille de leur départ. » Et là, il me dit « ne t'inquiète pas, j'organise tout, quelqu'un viendra t'accueillir à l'aéroport ». Donc là, je prends l'avion, je me retrouve effectivement à Pointe-à-Pitre avec une jeune fille sympathique qui a donc mon nom sur une pancarte. Je pars un peu sur un coup de tête en me disant « bon, de toute façon, je verrai bien une semaine aux Antilles ». Je suis vraiment effectivement en pleine désillusion sentimentale en tout cas. Et puis, je me pose effectivement des questions sur cette nouvelle avenir professionnel de danseuse qui commence tout juste. Donc, je me retourne dans cette maison toute seule. C'est particulier le bruit aux Antilles, il y a les crapauds. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Et là, je prends une grande décision. C'est pas normal de plus croire en l'amour à 22 ans, c'est un peu tôt quand même. Donc, je décide de faire balle neuve. J'écris une lettre de rupture à mon prof de danse, donc. Et en même temps, j'étais vaguement avec un comédien aussi. Et là, je me dis, bon, ça va pas non plus, donc j'écris une deuxième lettre de rupture. Et le lendemain matin, cette fameuse jeune fille vient me chercher, comme c'était convenu. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut passer par la poste ? Donc je poste mes 2 lettres de rupture En fait, j'ai eu un choc sentimental, c'est-à-dire que j'ai eu une première belle grande histoire d'amour très jeune, enfin très jeune, de 15 à 18 ans. Et en fait, quand j'ai eu 19 ans, donc un an après qu'on soit séparés, on m'a annoncé que malheureusement, ce jeune homme était mort tragiquement dans un accident de voiture. Donc effectivement, ça a été un choc émotionnel. J'ai pas eu pendant ces deux années-là vraiment d'aventure. D'abord, je m'y refusais parce que j'étais vraiment choquée et je comprenais pas. Enfin, il y avait un peu ce sentiment terrible d'injustice. Et quand j'ai rencontré ce prof de danse qui était effectivement très charismatique avec un côté pygmalion, je me suis jetée dans cette histoire tout en me disant que c'était quand même un petit peu particulier d'avoir une aventure avec quelqu'un qui avait l'âge de ton père. Et donc, quand j'arrive en Guadeloupe, je suis un peu dans cet état-là, en me disant ça fait deux ans que c'est un peu étrange avec ce fameux prof de danse où il n'y a pas vraiment d'avenir, où je m'essaye vaguement à une autre histoire avec ce comédien, mais je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'avenir non plus. Donc voilà, j'arrive à 22 ans, vraiment en me disant « tu crois plus en l'amour ». Et donc, une fois que je suis là-bas, que je poste mes deux lettres et je prends cette décision en me disant « maintenant, tu te recentres et ça va bien se passer », et je m'étais vraiment dit à ce moment-là « tu prends une année sabbatique sentimentale, tu fais le point sur qui tu es, sur ce que tu veux, et voilà », ça s'est pas complètement passé comme ça, à vrai dire. Après la poste, là, elle me dit « écoute, si ça te dit, Xavier, donc le fameux Xavier, c'était le fameux jeune homme qui était à l'initiative de ce voyage en Guadeloupe, il n'arrive que ce soir, donc si tu veux, je te propose de venir déjeuner à la maison. » Donc là, on est à Gosier, à Pointe-à-Pitre. J'ai croisé un ami et je lui ai demandé de venir déjeuner. Oui, avec plaisir, tout en me disant « franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me terrer et de parler pas à grand monde, mais bon, je fais bonne figure, j'y vais. » Et effectivement, il y avait ce fameux Philippe qui était donc un ami. Et le fameux Philippe avait croisé un autre ami à lui, Sidney Gavinier, pour ne pas le nommer. Et donc, je me retrouve à ce déjeuner avec cette jeune fille, Philippe, Sidney Gavinier, et donc moi. Et là, je regarde ce jeune homme, qui donc lui avait 23 ans, qui était là dans le cadre d'une préparation de course autour du monde. En fait, il avait quitté l'équipe olympique de Tornado. Il avait entamé une préparation pour faire son premier tour du monde sur le bateau La Poste. Et il s'entraînait aux Antilles, comme ça se passe souvent en hiver, parce qu'à l'heure où on se parle, on est en janvier 92. Donc j'avais pris, on se souvient, cette décision très très solennelle de prendre une année sabbatique sentimentale. Et donc 2 heures après cette décision, je me retrouve avec ce jeune homme que je trouve extrêmement beau et charismatique. Alors déjà, j'ai été impressionnée par, ça paraît bête, par ses cuisses, parce qu'il était en short. Et comme c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de Tornado, c'est un bateau très sportif, du coup, il était, je le trouvais très musclé, très beau, très gentil. Enfin voilà, il cochait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Et là, je me suis retrouvée un peu à le regarder en penchant la tête et je me dis, mais ça n'a pas de sens. Mais on passe un déjeuner très agréable. Et après le déjeuner, cette fameuse jeune fille nous dit, Sidney doit aller convoyer un bateau, il doit partir du sud de l'île, si tu veux. Allons-y ensemble, comme ça on accompagne Sidney et tu verras un peu l'île. Mais bien sûr, avec plaisir. Donc on se retrouve dans cette voiture où Sidney conduit. Moi, je suis derrière lui sur la banquette arrière, mais côté conducteur, donc je suis vraiment derrière lui. Et il y a donc cette fameuse jeune fille devant, Philippe qui est derrière. Et là, on commence à rouler et je sens, très étrange, une espèce de tension, en tout cas d'attraction déjà dans cette voiture, alors qu'on n'est même pas côte à côte. On arrive dans ce fameux port de sud de l'île. Il sent aussi qu'il se passe quelque chose et donc il me dit « Mais si tu veux, tu peux venir avec moi convoyer le bateau, comme ça tu verras l'île par la mer et ça peut être très beau ». Et je suis au désespoir parce que je lui dis « Écoute, non, je ne peux malheureusement pas puisque le fameux garçon qui a organisé entre guillemets ce voyage arrive ce soir, donc ça ne se fait pas de ne pas être là pour les accueillir. À ce moment-là, on n'arrive pas à se quitter, quoi. C'est un truc... Oui, c'est chimique, quoi. À ce moment-là, ça fait comme dans les films où on a l'impression qu'il n'y a plus que nous deux et que le temps se suspend. C'est très, très fort comme sensation. Et donc, s'il n'est pas... Là, je remonte dans la voiture, un peu la mort dans l'âme, évidemment, en me disant « Bah, aussi bien, je ne reverrai plus jamais ce garçon. » Alors que je sens que quand même, au-delà d'une attraction physique, il s'est passé quelque chose, en tout cas d'inédit pour moi. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et soudain. Ce même soir, je vais donc accueillir ce fameux Xavier et sa bande de copains. Et le hasard, une fois encore de la vie, j'en sais rien, l'alignement des planètes fait que je le dis. Oh, c'est drôle, j'ai rencontré un garçon super qui fait du bateau. Il est là pour préparer un tour du monde. Il s'appelle Sidney Gavinier. Et ce fameux Xavier me dit « Ah, mais je connais Sidney Gavinier. » Quelle est la probabilité pour qu'un garçon que moi-même je connais à peine, qui s'appelle Xavier, qui n'est pas du tout dans le milieu de la voile, qui vienne de Paris, connaisse un Sidney Gavinier qui est là aux Antilles pour préparer un tour du monde. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est terrible parce que je me dis, je ne reverrai plus jamais ce garçon, même si ce Xavier connaît Sidney. On ne peut pas échanger les 06 parce qu'il n'y a pas de portable en 92. Du coup, je sais juste qu'il est sur le bateau La Poste, qui est dans la marina de Gosier à Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est la seule indication que je peux avoir. Nous, on va à l'hôtel, etc. Donc, chacun dans sa chambre. Hein. Et le lendemain, Xavier me dit « J'ai eu Philippe au téléphone. » Donc, le fameux Philippe qui avait ramené Sidney au déjeuner. « On se voit ce soir pour l'apéro à Gosier. » Donc là, évidemment, ça va très, très vite dans ma tête. Je me prépare en 3 minutes chrono au moment de l'apéro. Je dis « Ah, on y va. » Et là, d'un coup, je me dis, il y a une possibilité pour que ce fameux Sidney soit là. Donc, effectivement, je suis en surexcitation intense. Et on arrive à Gosier, on est en terrasse, et là, je vois effectivement Philippe, et surtout, je vois Sidney. Et là, j'y vais, mais tout droit, en fait. Je vais vers lui, je m'assois à côté de lui, on commence à parler, et comme si je le connaissais depuis toujours, et je lui déballe... toute ma vie, je lui dis que j'étais avec mon prof de danse, que, enfin voilà, il n'y a pas de barrière, tout est naturel, tout est fluide. Et lui, c'est pareil, en fait, même si on était une dizaine à table, il n'y a que nous qui existons. On n'est pas du tout dans le partage, hein, on est vraiment concentrés et centrés l'un sur l'autre. Et là, Sidney nous dit, eh ben, si vous voulez, on peut aller dans un quartier de Pointe-à-Pitre. Alors, pour la petite info, c'est un quartier qui s'appelle Carénage et c'est quand même un quartier assez mal famé. Mais il y avait des bars un peu typiques, avec de la musique un peu typique, etc. Et donc, je me retrouve dans ce bar à Carénage. L'atmosphère était très particulière. C'est vraiment une petite pièce sans fenêtre, sans porte, avec juste un frigo qui sert de bar. Et là, il y a un groupe et ça danse un peu le zouk. Les Antillais ne sont pas farouches, donc il y a un Antillais qui commence à m'attraper par la main et à vouloir danser avec moi. Il regarde Sidney, il lui dit « C'est ta femme ?» Et Sidney dit « Oui, c'est ma femme. » Donc, c'était peut-être un signe, déjà. Et là, je me dis « Bon, je ne suis pas du genre à sauter sur les garçons, mais oui, il se passe quand même quelque chose d'assez fort. » Donc, je dis bah, « je vais boire un peu pour me donner du courage. » Et là, j'ai bu un petit punch. Voilà, la boisson locale. Donc, effectivement, j'étais un petit peu saoule, en tout cas suffisamment désinhibée pour commencer à danser avec Sidney. Et là, on s'est retrouvés dans une boîte. Pour le coup, on a fini la soirée tous dans une boîte de zouk. On a dû danser 2 heures, mais si je dis 2 heures, on a dû danser 2 heures non-stop à ne pas pouvoir se séparer l'un de l'autre. J'ai fini dans le bateau La Poste. Effectivement, j'avais dû boire 3 petits punches pour vraiment me donner du courage. Et on a un souvenir assez mémorable de cette nuit-là avec Sidney. C'était très fort, c'était intense, tout en moi me disant « mais je suis quand même dans un bateau avec un garçon que j'ai rencontré ». Mais en fait, ça me paraissait être une évidence. Il n'y avait pas de « oh là là, qu'est-ce que je fais ? Oh là là, c'est dangereux ». Pas du tout. À l'instant T, c'était une évidence. Et on ne s'est plus quittés, en fait, pendant les 8 jours qui me restaient. Donc, j'ai annoncé aux autres là, que je ne resterai pas avec eux. J'ai quitté le groupe. À ce moment-là, je m'installe avec Sidney. Pas dans le bateau, parce que c'était un bateau de course, hein, donc pas dans le bateau. Il a un copain qui lui prête une chambre dans une maison, etc. Il se trouve que Sydney, à ce moment-là, il est en break, donc ça tombe bien. Et on passe 8 jours à ne pas pouvoir, mais même se lâcher la main. C'est-à-dire qu'on est en voiture. Au moment de s'arrêter pour descendre, il y a quand même une hésitation de se dire, il va falloir qu'on se lâche la main pour descendre de voiture et pour pouvoir mieux se retrouver. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une attraction plus forte que tout, en fait. Ça paraît un peu bête de dire que c'était comme dans un film, mais oui, à ce moment-là, c'est comme dans un film. Et en même temps, ça me paraît être une évidence. En fait, déjà à ce moment-là, je me dis « Sydney, c'est l'homme de ma vie ». Dès le lendemain, je me dis « c'est l'homme de ma vie », c'est une certitude. Parce que c'était quelque chose de tellement évident et de tellement puissant. À ce moment-là, j'ai 22 ans, donc on a compris un peu désillusionné, je suis anti-mariage. Alors c'est quelque chose où je me disais « mais mariage égale divorce, égale emmerdement, donc autant s'épargner un peu tout ça ». Et là, d'un coup, sans vraiment le formuler auprès de Sydney, mais je me dis « mais c'est fou, c'est lui ». Enfin, il n'y a pas d'autre option, quoi, c'est lui. Petit drame quand même de l'histoire, parce qu'il en faut bien, il faut que je rentre. Parce que, eh ben justement, j'ai eu mon premier contrat de danseuse et je suis attendue à Albertville pour faire la fameuse ouverture des JO de Découfflé. Enfin, moi, évidemment, je suis en larmes, hein, parce que j'ai la larme facile. Et on se dit, bah, on va se revoir quand on se reverra. C'est-à-dire que Sydney, lui, il s'entraîne. Il est censé rentrer, bah, effectivement, pas avant le mois d'avril à ce moment-là. D'une transatlantique, donc on est quand même fin janvier, donc ça fait un petit peu de temps. Donc je rentre, et donc je pars à Albertville. Alors d'un côté, je suis contente parce que j'ai mon premier contrat de danseuse dans cet événement assez incroyable que sont les JO d'Albertville. Et en même temps, je me dis, je peux pas ne pas le voir comme ça pendant... Et donc, je me dis, c'est pas grave, tout mon premier cachet de danseuse y passait. Mais je me dis, entre l'ouverture et la clôture, je vais repartir aux Antilles, revoir Sydney. Et donc là, je cherche un billet. Donc, on est début février, c'est un peu les périodes pleines pour partir aux Antilles. Et très compliqué d'avoir un billet. Finalement, j'arrive à avoir un billet avec Air Outre-mer. Donc, j'appelle Sydney, je dis, ça y est, je peux partir, Air Outre-mer, etc. Super, super, super. On fait l'ouverture des JO. On reprend tous le quart de nuit, les danseurs. On arrive à Paris au petit matin. J'arrive chez moi à Saint-Mandé. Ma petite sœur ouvre la porte et elle me dit « Air Outre-mer a appelé, tu ne peux pas partir, ils font grève. » Et là, c'est le drame. D'abord, je pense à une mauvaise plaisanterie et quand je vois sa tête, je comprends que non, c'est pas une mauvaise plaisanterie. Évidemment, je pleure et je me dis « mais c'est pas possible. » Là, on a 6 ou 7 heures de décalage horaire avec les Antilles. Donc, je ne peux pas prévenir Sydney tout de suite parce que chez nous, c'est le petit matin, mais chez eux, c'est la nuit. Et une fois encore, il n'y a pas de portable. Donc, pour joindre Sydney, il faut que j'appelle la capitainerie de Pointe-à-Pitre, que je demande à laisser un message à Sydney Gavignet du bateau La Poste, que ce fameux Sydney Gavignet passe à la capitainerie et le message me rappelle. Donc, ça complique un petit peu la communication. Finalement, je suis à côté du téléphone, personne n'a le droit de toucher à ce téléphone. Je finis par joindre la capitainerie. Sydney, en début d'après-midi, finit par me rappeler et je lui dis évidemment en larmes, Air Outre-mer a appelé, je ne peux pas partir, ils font grève. Et là, il me dit, écoute, on a tellement bataillé pour avoir ce billet, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant, c'est pas grave. Il est jeune, mais déjà très, très philosophe et sage, en tout cas en apparence. Et il me dit, écoute, voilà, c'est comme ça, etc. Et là, évidemment, je raccroche. Je suis effondrée. Et je me dis, mais ça se trouve, je n'étais qu'un amour de vacances. Et voilà. Tout en me disant, non, j'ai pas pu me tromper à ce point-là. Et en fait, il m'a rappelé une heure après. Et il m'a dit, écoute, en fait, ça va pas du tout. Je suis passée à l'aéroport. Je suis sur une liste d'attente. Si ça se débloque, je suis demain matin à Paris et je repars après-demain. Donc en fait, il venait pour 24 heures à Paris. C'est incroyable, hein ? Et du coup, évidemment, rebelote, personne n'a le droit de toucher au téléphone parce que j'attends. Et là, il me rappelle, il me dit « c'est bon, je suis à l'aéroport, j'arrive demain matin ». Pour la petite histoire, une fois encore, il arrive donc en février à Paris. Il est en jean, en chemise et en tong. Parce que lui, il arrive des Antilles et que tout ça s'est passé tellement vite que voilà, on n'est pas trop dans le regard de « je prends un pull, je prends une paire de baskets ». Je vais chercher à l'aéroport, donc déjà, c'était assez fou, hein, c'était formidable. Et ce que je n'ai pas dit, oui, j'ai oublié de dire ça, c'est-à-dire que c'est pourtant un détail qui n'en est pas un. C'est-à-dire que quand je suis rentrée pour les JO d'Albertville, j'écris une lettre et en substance, je lui dis « écoute, moi, j'étais complètement désillusionnée, j'étais anti-mariage, je te rencontre. Et là, c'est une évidence. Et je me dis que non seulement t'es l'homme de ma vie, mais que je veux me marier avec toi. » Et donc, je lui envoie cette lettre. Et je reçois une lettre, je pense, le lendemain, véridique. Hein. Là, je me dis, il n'a pas reçu ma lettre. Et en fait, en substance, il me dit la même chose. Et donc, quand il arrive à Paris, à ce moment-là, donc il arrive à Paris en tong et en chemise... Je sais qu'il repart le lendemain. Donc, il est là juste pour 24 heures. Et on reparle donc de cette lettre. On se dit, non, mais c'est fou quand même qu'on ressente ça tous les deux de façon aussi forte et évidente alors qu'on a passé 8 jours ensemble. Ben, faisons-le. Et donc, on passe à la mairie de Saint-Mandé pendant ces 24 heures où il était là et on se renseigne et on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut pour se marier? Et donc, on nous explique, publication des bans, etc., etc. OK. Et donc, Siné repart le lendemain. Donc, évidemment, redrame, hein, mais bon, redrame, et en même temps, là, il se passe quelque chose de très fort quand même, puisqu'on décide pendant ces 24 heures que oui, ça ne nous paraît même pas un non-sens de nous marier. Donc, on va s'organiser pour le faire, en fait. Alors déjà, quand je suis rentrée de Guadeloupe, j'ai dit à mes parents, j'ai dit voilà, j'ai rencontré un garçon, il s'appelle Siné. De toute façon, elle a vu ma tête quand je suis arrivée de l'aéroport, elle a dit bon, bah là, il s'est passé quelque chose. Parce que dans ces cas-là, on a un peu un sourire béat collé aux lèvres en permanence. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très raisonnable. J'ai jamais fait de bêtises, j'ai toujours été celle qui assurait, etc. Donc... mes parents ne se sont pas dit « elle est en train de péter les plombs ». Et puis, je devais annoncer ça avec une telle certitude et calme. Et d'ailleurs, je me suis dit à ce moment-là, parce que l'approbation de ma mère, c'était plus important que tout, mais là, pour la première fois, je me suis dit « cette décision n'appartient qu'à moi ». J'avais 22 ans, j'étais majeure, même si je n'avais pas de travail à part ce premier contrat de danseuse. Je me dis « cette décision n'appartient qu'à moi ». Et je me suis même dit « et peu importe ce qu'en pense ma mère ». Et donc, c'était même pas une folie, en fait. C'est pas parce qu'on passe des années ensemble que c'est un gage de réussite. Et Sidney, quand il en parle, il dit « toi, t'arrives à ce moment-là et t'es un cadeau du ciel ». Lui, il est très croyant. Et moi, beaucoup moins. Mais en tout cas, c'était, je peux pas dire mieux, c'était une évidence. Et pas une seule fois, on s'est dit, ni lui ni moi, on est complètement inconscient, on fait une bêtise, c'est un peu foufou. C'est même pas un pari, on est sous et puis on va se marier à Las Vegas et on rigole. Non, non, c'était très clair, ne serait-ce qu'au bout de 8 jours, mais même pas au bout de 24 heures, que oui, j'étais la femme de sa vie et que oui, c'était l'homme de ma vie. Donc, ça nous paraît même pas dingue, en fait. Mais évidemment, il y a plus de rebondissements que ça, sinon ça serait pas drôle. Donc, moi, je finis, je danse la clôture, etc., d'Albertville. Siné, lui, il est aux Antilles, il prépare sa course. Donc, le Tour du Monde qui doit partir en septembre. Et arrive le moment de la fameuse transat où il doit rentrer. Et moi, là, je me débats un petit peu pour rassembler les papiers du mariage. Et je vais déposer donc le dossier à la mairie. Et donc, la dame de la mairie me dit « Très bien, vous avez tout, toutes les pièces, voulez-vous marier quand ?» Ben, je dis, écoutez, c'est pas compliqué. il rentre le 2 avril, il repart le 5, donc ou le 3 ou le 4. Et là, elle me dit, ben, écoutez, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas 3 semaines de délai de publication de ban. Et là, je lui dis, mais c'est-à-dire, c'est pas possible, comment ça, on peut pas se marier? Et donc, je pleure, évidemment. Et là, elle est toute gênée. Elle me dit, mais je suis désolée, mademoiselle, c'est la loi. Personne ne peut déroger à ça. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. Donc, je repars de la mairie, évidemment, la mort dans l'âme. Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a cette urgence, pourquoi ça ne peut pas se passer autrement. Et surtout, c'est réciproque. Ce n'est pas un caprice. C'était juste, fallait qu'on le fasse. C'était viscéral. Moi, je le ressentais vraiment dans mes tripes, en fait. Et là, je me souviens, au moment où je sors de la mairie, où je suis évidemment désespérée, que dans rue Plisson à Saint-Mandé, on a la chance d'avoir un adjoint au maire. Et donc, je vais voir Alain Paganini, que je remercie et qui n'est plus avec nous maintenant. Donc, merci beaucoup, Alain. Et je vais le voir, évidemment, j'ai 22 ans, je pleure et je dis « Alain, ils ne veulent pas qu'on se marie ». Et il me dit « Écoute, je vais essayer de décrocher un rendez-vous pour toi au tribunal de grande instance de Créteil, puisqu'il n'y a que le procureur de la République qui peut délivrer une dérogation ». Donc Alain me rappelle très vite hein, et il me dit « C'est bon, tu as rendez-vous demain ». Donc là, j'appelle mon papa et je lui dis « Papa, ils ne veulent pas qu'on se marie, il faut que tu m'emmènes au tribunal de grande instance ». Mon papa, qui est quand même très sympathique à ce moment-là, parce qu'effectivement, il pourrait se dire « Écoute, ça va, tu te marieras plus tard ». Non, non. Il m'accompagne au tribunal de grande instance de Créteil. Là, on se retrouve dans un bureau F323, je ne sais plus. Et là, je tombe sur la secrétaire du procureur. Et elle me dit « Bah, écoutez, racontez-moi votre histoire ». Donc, je prends une feuille de papier et je raconte. Je dis « Voilà, j'ai rencontré un garçon qui est navigateur ». Et je dis, on s'aime très fort, et il part faire une course, et on veut se marier avant qu'il parte, et voilà. Et donc, j'écris tout ça, elle part avec la lettre, et elle revient peut-être une demi-heure après, avec un papier officiel, une dérogation du procureur de la République, en disant, on ne veut plus entendre parler de vous, hein, pas de divorce. Je dis, non mais madame, je vous jure, merci madame. Et donc, je suis repartie avec ma dérogation du procureur de la République, et donc... J'ai appelé Sidney, je lui ai dit « Écoute, c'est bon, on peut se marier le 4 avril. » Et du coup, là, on s'était dit « Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Qui on invite ? Qui on n'invite pas ? Qui... Enfin, voilà. Je ne connais pas la famille de Sidney. Pour moi, c'était « Oui, évidemment, c'est sur le papier, moi danseuse, lui navigateur qui prépare un tour du monde. » On ne se dit pas « on va aller s'installer tout de suite et on va avoir une vie tranquille, etc. » Mais en fait, je ne me pose même pas la question. Comme c'est viscéral et c'est là et c'est plus fort que tout, je n'ai pas du tout extrapolé sur ce que notre vie pourrait ressembler. Pas du tout. Avec mon père, on dit bah, « Tiens, qu'est-ce que tu veux ?»« Bah, je sais pas, j'aime bien manger thaï, donc allons dans un thaï. » Donc avec mon père, on est allé manger dans un thaï à Nation et on a dit « Ah oui, c'est chouette, donc on a choisi le menu ». Et puis d'un coup, bah, qui on invite ? Bah, pas grand monde, ok, mes parents, mes sœurs, quelques amis. Donc le 3, on va quand même faire vaguement lui acheter une veste de costume, une chemise, une cravate. Là, il a des chaussures. J'avais une robe noire, donc c'était pas. Donc j'ai cousu des marguerites en tissu comme ça. J'avais un énorme bouquet de marguerites. Donc c'était aussi simple que ça. D'ailleurs, je suis arrivée à la mairie, j'ai vu que la dame, elle cherchait un peu la mariée. Je dis, c'est moi. La mariée était en noir. Et là, on se retrouve donc dans cette salle de mairie de Saint-Mandé. C'est Alain Paganini qui nous marie. C'était la moindre des choses. Et c'était effectivement extrêmement émouvant. Sidney, au moment de sortir le oui, il s'est un peu étranglé. Donc Alain lui a dit « Vous êtes sûr de vouloir ?» Il a dit « Oui, 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 oui. » Et on est allé manger au restaurant Thaï. Et il est parti le lendemain. Le jour du mariage, on s'est dit « Ah, aujourd'hui, c'est le 14e jour qu'on passe ensemble. » Mais voilà, une fois encore, ça ne nous semblait pas du tout une absurdité ou une folie ou que sais-je. C'était une évidence, quoi. Il s'en va le 5 avril. Donc effectivement, là, je suis un peu sur le quai Gare de Lyon parce que je ne sais pas où il allait. Enfin bref, c'est un peu comme dans les films. Hein. Je cours un peu sur le quai en pleurant. Et après, pendant un an, on ne se revoit plus jamais en France. C'est-à-dire que moi, je savais qu'au mois de mai, je crois, de 92, il était à Saint-Martin. Donc moi, je commence à avoir mes petits cachets de danseuse. Donc pendant un an, dès que j'ai de quoi me payer un billet d'avion, je pars le rejoindre. Moi, on me pose des questions. Et Sidney, L'aime l'ananas, j'en sais rien. Essinet, il mesure combien? Je sais pas. Essinet, je ne sais pas non plus. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a plein de questions. Et après, après, il part autour du monde. Donc moi, je suis danseuse à ce moment-là. Je rentre dans la compagnie de Karen Saporta au Centre chorégraphique national de Caen. C'est ma deuxième audition après Découflé et je suis prise. Donc moi, j'habite à Caen, je suis danseuse. Et lui, il part faire son tour du monde. Il part pour 9 mois. Et c'était une vie incroyable parce que j'ai suivi le tour du monde. Hein. J'allais sur les escales. Ça dure 9 mois. Où moi, je rentre parce que je suis dans le Centre chorégraphique national de Caen. Lui, enfin bref, on est comme ça. Et puis après la fin du tour du monde, Sidney, à ce moment-là, il est engagé pour faire l'America's Cup à San Diego. Et moi, je dois partir faire une création franco-norvégienne avec la compagnie Karen Saporta. Et là, je décide de quitter la compagnie en me disant, ça fait déjà 9 mois que, enfin, on s'est pas vu du tout, etc. Je vais partir avec Sidney à San Diego. On part à San Diego pendant, s'installer là pour le coup pendant 5 mois. À San Diego, où lui, donc, il s'entraîne pour faire l'America's Cup, et moi, je fais du babysitting pour me faire un peu de sous. On a un appartement, on est logé comme tous les autres coureurs. Et donc là, oui, pour la première fois, plus d'un an après, on a une vie de couple un peu plus normale, où effectivement, je partage un peu un quotidien avec mon mari, qui, lui, la journée, lui, travaille sur son bateau. C'était une expérience incroyable hein, d'être à San Diego comme ça pendant 5 mois. Et là, quand on rentre de San Diego, eh ben enfin, on devient plus normaux. Je suis dans une nouvelle compagnie de danse à Montpellier. L'équipe dans laquelle il était, de Marc Pajot, était basée à Sète. Et on achète un studio à Montpellier. On a une vie à peu près normale, où tous les soirs, il rentre à la maison. Donc là, on est en 95. Et j'appelle une copine avec laquelle j'étais en fac. Elle me dit, ça va? Je dis, écoute, oui, ça va. Sidney, je ne le vois pas beaucoup parce que entre temps il était parti refaire des courses. Je suis à Montpellier, mais franchement, je ne sais pas trop. La danse, voilà, Sidney, pas là, etc. Et là, elle me dit, mais pourquoi tu ne viens pas travailler à la télé? Je dis, parce que je suis danseuse, Clarisse. Et elle me dit, oui, mais on était ensemble en fac, et écoute, moi je travaille à Canal, c'est très sympa. Mademoiselle Agnès cherche une assistante. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas qui est Mademoiselle Agnès parce que je suis danseuse et Canal+, je connais à peine. Je ne sais pas qui sont les nuls. Donc, je ne suis, pas du tout impressionnée par ce milieu de la télé parce que je ne le connais pas. Et à ce moment-là, Sidney, il est en train de faire des courses dans le Nord. Je me souviens, il était entre la Suède et tout terrain. Et là, je me retrouve à venir faire prendre le TGV. Je fais Montpellier-Paris, j'arrive à Canal. Et donc, je passe un entretien pour devenir l'assistante de Mademoiselle Agnès. J'ai rencontré Agnès le mardi et le vendredi, je signe mon contrat de CDD de septembre à juin 95 pour d'un coup ne plus être danseuse et habiter à Montpellier, mais travailler à la télé et habiter à Paris, quoi. Mais une fois encore, ça me paraissait pas fou, en fait. Je me disais, voilà, la danse, c'était une chouette parenthèse, c'est fini, on va entamer un autre chapitre. Et là, j'ai appelé Sidney, je dis, alors écoute, j'ai quelques petites nouvelles. Alors, en fait, je ne vais plus être danseuse, je vais travailler à la télé, à Canal+, et puis donc, on n'habite plus à Montpellier, il faut qu'on habite à Paris, en fait. Et en fait, ça a été un peu toujours ça, notre vie. Et d'un coup, je me suis retrouvée, alors j'étais dans le bain tout de suite, parce qu'on avait une météo par jour, c'est la grande famille animée par Devoise et Vicky. Et Agnès, elle a une rubrique mode par semaine et elle fait la météo tous les jours. Et donc moi, d'entrée de jeu, je lui dis, écoute, on va faire des météos un petit peu originales. Et du coup, c'était un sacré boulot parce qu'il fallait que je trouve une idée, un happening tous les jours pour la météo et que j'écrive, que je trouve des thématiques de mode, que j'écrive les chroniques, que j'organise les tournages. Donc pour le coup, j'ai été jetée dans le bain tout de suite, mais c'était super formateur. Et après, j'ai décidé de quitter, de faire une petite année de césure parce que on essayait de faire un bébé avec Sidney. Alors, pas facile de faire un bébé avec un navigateur qui n'est pas toujours là. Je mets un petit peu de temps à tomber enceinte. Et malheureusement, je fais une fausse couche en 97. ça me dévaste vraiment profondément, comme beaucoup de femmes, j'imagine. Et je retombe enceinte en juin 97. Et là, je me dis, une grossesse plus Agnès, la télé, tout ça, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je quitte Canal, donc je fais mon bébé. Ciné, il n'arrête jamais de naviguer. On va dire que sur une année, il est absent au moins la moitié de l'année. Mais en fait, à cet instant T, je me pose même pas la question. Et quand les gens me disent, je sais pas comment tu fais quand même pour tout gérer toute seule comme ça, je comprends même pas. Alors l'absence, bien sûr, c'est compliqué parce que comme on s'aime fort, c'est compliqué d'être séparés. Donc, mais j'ai mon bébé et je reprends Canal. Une fois que Chad a eu 6 mois, je reprends le boulot. Et Sydney n'est pas beaucoup là. Hein. Sydney navigue, il prépare. Là, il commence à faire du solitaire. Donc, il prépare des Figaro, etc. Donc, oui, c'est un peu compliqué. En fait, étonnamment, c'est plutôt assez fluide. Comme moi, à l'époque, parce qu'après, c'était un autre débat, mais je ne me pose pas la question tellement de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, les absences, etc. Oui, on a une vie assez intense et particulière, parce que Chad, elle a été, du coup, trimballée très petite, un peu partout, puisque Sydney n'était pas là, donc nous, on allait le rejoindre la plupart du temps. Je me dis, OK, on a une vie atypique. Sydney, on sent qu'effectivement, lui, pour lui, c'est compliqué, aussi les départs et les absences, hein, parce qu'il a sa femme, son bébé, etc. Mais il est dans son histoire aussi de navigateur, donc voilà, et ça dure comme ça, un bon moment, jusqu'à ce qu'il fasse un tour du monde. La Chad, elle a 3 ans, peut-être 4 ans. Là, à ce moment-là, j'avais quitté Canal et je deviens productrice très vite pour Dominique Cancien. Là, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, quand Sydney repart faire un fameux tour du monde, repartir 9 mois autour du monde, là, je deal avec Dominique Cancien que je vais partir pendant les vacances scolaires, un peu plus, un peu moins, pour que Sydney voit sa fille et que moi, je vois mon mari. Et donc là, Chad fait son premier tour du monde. Puis 7 ans après, on a un deuxième enfant, donc Tara June, qui est née en 2003. Et là, je me retrouve avec 2 enfants, une vie de productrice télé, un mari navigateur. Où là, oui, les absences commencent un peu à peser, mais les absences et puis les accidents et puis l'angoisse et puis parce que c'est un métier dangereux. Plusieurs fois dans ma vie, dans notre vie, parce que les filles sont concernées de fait, on a reçu des coups de fil en pleine nuit en disant Sydney a dématé, le bateau s'est retourné. Donc c'est autant de chocs émotionnels assez violents. Et en fait, il y a un événement très précis, c'est-à-dire que là, donc j'ai mes 2 filles. Sydney part faire un 3e tour du monde. Donc, il faut savoir que quand il part comme ça, c'est 9 mois de préparation et 9 mois de course. C'est-à-dire qu'il quitte la maison pendant 18 mois. J'ai jamais mis dans la balance c'est ta passion ou nous. Je savais qu'il était navigateur. J'ai toujours géré, plus ou moins. Il se trouve que là, pendant ce tour du monde, à l'époque, je suis productrice et je décide de quitter la boîte. Et là, je pars 6 mois suivre le tour du monde. Parce que je me dis, ça n'a pas de sens. Alors oui, effectivement, à chaque fois, c'est moi qui me mets entre parenthèses. Mais c'est une aventure familiale, un tour du monde. Et paradoxalement, le plus long qu'on ait été séparés avec Sydney, c'est 2 mois et demi. J'ai toujours réussi à faire en sorte que notre famille ait du sens et que, oui, je suis celle qui a fait que ça tienne debout et que ça soit toujours cohérent et que nos filles voient le plus souvent possible leur papa. Et du coup, je me suis toujours organisée pour faire en sorte que ça soit possible. Là, pour le coup, oui, on ne peut pas dire qu'il y avait une équité d'organisation et d'effort. Sydney, il était sur ses courses et moi, je l'organisais tout autour. Et il se passe un événement très précis, malheureusement, pendant ce tour du monde. Il est sur un bateau, un sponsor américain, sur le bateau qui s'appelle Puma. La course se passe très bien parce qu'en l'occurrence, ils ont gagné beaucoup, beaucoup d'étapes, mais c'est très particulier cette vie de quand on suit les tours du monde comme ça, c'est comme une énorme caravane qui se déplace autour du monde. Il y a même une école de la Volvo Ocean Race, donc toutes les femmes, les enfants de plein de nationalités différentes, on se retrouve toutes là à attendre les bateaux. Il y a l'école avec les enfants pendant les escales, etc. Donc on crée des liens. Et là, le tour du monde se finit, on est sur la fin, donc on a déjà passé 6 mois ensemble, hein, toutes. Et il y a un équipier qui tombe et qui meurt en mer. Et là, d'un coup, c'est devenu très concret pour moi. Il se trouve qu'en plus, il avait une petite fille de 2 ans que les filles adoraient et que sa femme était enceinte. Là, j'en parle, j'ai des frissons. Ça a été un vrai choc et un vrai drame, évidemment, pour cette famille dont on était très proche. Et là, d'un coup, c'est devenu très concret. Je me suis dit, OK. Donc, les départs, à partir de ce moment-là, n'avaient plus du tout la même saveur. Plus du tout. C'est-à-dire que chaque départ, je me disais, c'est potentiellement la dernière fois que mes filles voient leur papa, quoi. Et que moi, je vois mon mari. C'était très particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ça a pris une autre tournure. À partir de ce moment-là, chaque départ, moi, je ne peux pas aller sur un bateau parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un départ, il y a des bateaux qui suivent, etc., avec les familles, avec les sponsors, avec bref. Et moi, à partir de ce moment-là, je n'y arrive plus. Donc, je suis là au départ et après, généralement, quand le bateau part, je vais dans une salle de sport et je me mets à faire du spinning ou des trucs comme ça pour éviter de penser à ça. Et effectivement, là, pour la première fois, je commence à dire à Sydney, c'est dur, c'est compliqué, les absences, le danger, la peur. Mais les filles, elles s'élèvent avec ça. Donc, bien sûr que c'est compliqué pour elles par moment, leur papa leur manque, etc. Mais on va dire que l'absence est devenue un autre membre de notre famille, quoi. Donc moi, je m'efforce pendant toutes ces années de faire vivre Sydney au quotidien, quand elles sont petites, quand il est autour du monde, il y a un globe terrestre avant qu'elles dorment. Ah bah où est papa? On regarde sur le globe, ok. On ferme les yeux, on pense à lui très fort, on lui envoie plein de pensées. Alors après, ça n'a pas toujours été. Et moi, je me souviens d'une anecdote où une fois, Sydney était rentrée dans la nuit et Chad était petite. Elle avait l'habitude le matin de venir me voir dans la chambre et elle regarde son père. Elle voit qu'il est là et puis elle lui dit ah bah non, c'est pas ta place, c'est la mienne. Puis elle le regarde très gentiment, elle lui dit tu sais, il n'y a plus de place pour toi ici. Donc voilà, donc il a toujours fallu être assez vigilant avec ça. Alors après, c'est une vie d'une richesse et d'une intensité incroyable. Et puis après, c'est cette première mésaventure qui n'est pas des moindres, hein, la disparition de cet équipier qui a été un choc émotionnel pour tout le monde. 4 ans après, Sydney refait un tour, parce que c'est tous les 4 ans, refait un tour du monde. Et là, cette fois-ci, je décide de déscolariser les filles et de dire « Ok, on vit l'aventure tous ensemble. » Et là, on part 1 an autour du monde. Donc à ce moment-là, Chad, elle est en 6e, Tara June est en maternelle grande section. Et là, j'apprends ce que c'est que de faire l'école à ses enfants. Hein. Elles sont inscrites au CNED. J'ai appris à lire et à écrire à Tara June, qui a sauté une classe en rentrant, puisqu'elle est rentrée au CP, elle savait lire et écrire. C'était gratifiant, mais ça a été costaud cette année-là. Mais en même temps, pas de regret, si c'était à refaire, c'était tellement incroyable. Ça se passe de façon assez fluide. Mais moi, j'ai compris à un moment très précis que je n'y arriverai plus. Entre-temps, là, il est engagé par Oman Sail. Il navigue pour le sultanat d'Oman où il forme des Omanais à la course. Donc là, rebelote, il n'est pas souvent là, etc., etc. Et il fait une première route du Rhum où il a un accident. Il dématte. Donc là, moi, à ce moment-là, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que je fais des chroniques sur comment ça va bien. Je reçois un coup de fil, je suis en plein tournage. Sydney a dématé, etc., etc. Donc, il a été secouru. Je suis allée le retrouver. Enfin, c'est toujours des histoires assez rocambolesques. Et il refait 4 ans après une autre route du Rhum. Et là, j'arrive à Saint-Malo. Je descends du train. Et là, j'éclate en sanglots. Et je me dis, j'arrive plus à encaisser. Les absences, le danger, j'y arrive plus. Mais c'est compliqué. Parce que j'y arrive plus, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Dire à son mari, j'y arrive plus, donc t'arrêtes. Lui, il fait que ça depuis. Il a commencé à naviguer sur le lac d'Annecy, il avait 14 ans, quoi. Donc cette route du Rhum, elle a été assez violente à vivre. Là, je le dis à Sydney, je dis Sydney, j'ai plus de jus. En fait, je vous ai tout donné. pour faire en sorte que cette famille soit cohérente et du sens. Mais là, je le sens, pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de jus. Et lui, comme c'est un garçon extrêmement gentil, me dit « Je comprends, je ne sais pas quoi te apporter comme réponse, mais je comprends, tu as tellement donné pour cette famille, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi ?» Et en fait, effectivement, ça ne s'est pas soldé tout de suite, puisque 4 ans après, il refait une route du Rhum, où 1 an avant, il m'avait dit « J'arrête de naviguer ». Mais bon, quand tu as été navigateur toute ta vie, qu'est-ce que tu fais pour te renouveler ? Donc, pas simple. Donc là, on a une année un petit peu compliquée. Alors, il continue à naviguer, mais en se disant « qu'est-ce que je vais faire de mon avenir ?» Et là, il m'annonce, entre deux couloirs, « Ah, au fait, je t'ai pas dit, je vais faire la route du Rhum. » « Ah non, tu m'as pas dit. » Donc celle-là, elle a été un peu violente parce qu'effectivement, moi, 3 ou 4 ans avant, je lui avais dit « Écoute, j'y arrive plus. » Et puis, il se trouve que 4 ans après, on prend les mêmes, on recommence. La jolie histoire, c'est que pour son jubilé, il a couru aux couleurs de Café Joyeux, qui est une association qui emploie des gens différents, et handicapés et trisomiques, etc. Donc, il l'a fait de façon bénévole. Et il a apporté haut et loin les couleurs du Café Joyeux, puisqu'il a gagné la Route du Rhum dans cette catégorie. Et là, il y a une image très émouvante de Sydney à l'arrivée. Et là, il annonce, il dit voilà, c'était, je suis très content, c'était formidable, mais j'arrête. J'arrête. Et donc, c'était très fort, hein, parce qu'effectivement, voilà, enfin, il y avait l'arrêt de ses courses après de... Bah, on va dire 26 ans hein, quand même de vie de femme de marin à devoir gérer tout ça et encaisser, mais une fois encore sans regret, hein, parce que tellement fort et puissant, mais en tout cas avec beaucoup de fatigue, ça c'est une certitude, émotionnelle et physique aussi, on va le dire. C'était il y a 4 ans. Franchement, il a été très courageux, même si les 3 années passées n'ont pas été simples, en dehors du Covid, parce que Sydney, à ce moment-là, il reprend ses études, il fait un MBA Marketing Management, il se forme à l'équicoaching, où on travaille avec les chevaux pour faire ressortir les émotions, il se forme au coaching, donc il fait un mémoire, puis 2 mémoires, puis 3 mémoires, donc respect. Après, avoir un étudiant de 48 ans à la maison, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Comme on a une vie un peu particulière... les filles sont parties aussi tôt. Tara June est partie à 12 ans faire sport études équitation dans le Finistère. Chad est partie faire ses études ailleurs à 17 ans. Bref, il y a 6 ans de ça, on s'est dit il faut qu'on ait un camp de base et on a acheté une très jolie maison, la maison du bonheur en Bretagne. Et maintenant, Sydney, lui, il est là-bas à plein temps. Bah, il est à la fois coach pour des coureurs, des navigateurs. Donc, il les prépare mentalement, il leur fait des programmes, etc. Il est coach de vie pour des gens qui viennent le voir pour trouver un peu une raison d'être. Il fait des conférences, il fait de l'équicoaching. Même si moi, je suis basée à Paris parce que je travaille toujours en télé, Sydney, il est en Bretagne et on se voit effectivement beaucoup plus régulièrement. Et en tout cas, les filles, elles sont vaccinées, je pense, des voyages. En tout cas, l'aînée qui aspire à une vie beaucoup plus sédentaire et... même si elle dit que c'est, voilà, ça a été une expérience incroyable. Mais quand même, elle veut une vie sédentaire avec un mari qu'elle a tous les jours. Maintenant, on est quasiment tous en Bretagne. Il n'y a que moi qui fais des allers-retours comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de schéma idéal de couple. En tout cas, nous, ça a toujours été notre mode de fonctionnement que d'être pas les uns sur les autres 24 sur 24. Après, il y a plein de couples de navigateurs qui, malheureusement, n'ont pas fonctionné. Hein, donc, parce que c'est aussi une difficulté que d'être séparé autant. On peut très vite faire sa vie en parallèle. Et je pense que là, pour le coup, j'y suis pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours fait en sorte que cette famille soit solide et que les bases soient saines. Après, ce n'est pas innocent si on a ressenti quelque chose d'aussi fort il y a 30 ans de cela. Parce que nous avons fêté nos 30 ans de mariage, ça fout un peu le vertige. Alors, 30 ans de mariage comprend 15 ans de vie commune. Mais en tout cas, 30 ans de mariage, et tout ça, on se l'est redit le jour de notre anniversaire des 30 ans, on se l'est dit, c'était donc, oui, une vraie évidence, quand on s'est rencontrés en 92, en se disant, t'es l'homme de ma vie, et je suis la femme de ta vie. C'était écrit. Et 30 ans après, ça nous donne encore plus raison, même si on n'a jamais douté. Et malgré toute cette vie particulière et ces mésaventures, accidents, dangers, etc., absence, je n'ai jamais, jamais, jamais douté sur le fait que Sidney est l'homme de ma vie. Jamais. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on se dit, au bout de 30 ans de mariage, nous, on n'est pas du tout effrayés à l'idée de se dire « Oh là là, on va finir nos vies ensemble ». On se dit « Oh chouette, on a plein plein de trucs à vivre ensemble, quoi ».
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.